Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois un libraire, Mathieu Hippo, qui a récemment ouvert la librairie à l'Ouest dans le 14e arrondissement de Paris. Une librairie généraliste que Mathieu a ouvert en mai dernier, ce qui a impliqué pour lui un changement de carrière, mais aussi un goût, une envie de partager dont on a évidemment parlé. Et justement, avec Mathieu Hippo, on a discuté ensemble de la manière dont il a pensé cette librairie, des projets qu'il met en place pour la faire vivre, mais aussi de la place du pass culture ou encore de la vie économique d'une telle structure au bout de quelques mois. Bonne écoute. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Mathieu, vous avez ouvert cette librairie en mai dernier, en mai 2023.
Le 30 mai précisément.
Le 30 mai, à Paris, on y est actuellement. Donc d'ailleurs, il est possible qu'on soit dérangé par des clients, parce que vous êtes tout seul aujourd'hui à la boutique.
Exactement.
Alors on est dans le 14e arrondissement, à Gaîté Joséphine Baker, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Le local, c'était une ancienne confiserie, c'est ça ?
Oui, exactement.
Bon, pour quelles raisons vous avez décidé de vous implanter ici ? Dans ce quartier.
Alors, j'avais l'idée d'ouvrir une librairie depuis longtemps. J'étais professeur de français auparavant.
Ouais.
Et depuis le confinement, voilà, j'ai lancé des recherches plus actives. Et j'avais aucune idée de l'endroit où je voulais m'implanter à Paris. Parce que
c'était
compliqué.
À Paris déjà.
Oui, c'était à Paris.
Mais ça, vous n'êtes pas du tout du quartier, quoi.
Non, je ne suis pas du quartier. Okay. J'habite près de République.
Ouais.
Et donc, j'ai beaucoup marché avant d'être libraire. Voilà, j'ai arpenté Paris un peu dans tous les sens, dans tous les arrondissements, à la recherche d'un lieu propice, parce qu'il y a beaucoup de librairies à Paris, donc c'est compliqué. Je savais que la rive droite, en particulier mon quartier, le 10-11-3, il y a déjà beaucoup là-bas.
Ouais, ouais.
Donc voilà, j'étais parti, je m'étais dit 12, 13, 14, voilà, c'était les arrondissements que je m'étais fixé. Et un jour, j'ai atterri à Gaîté et je me suis dit, tiens, au métro Gaîté, il n'y a rien, alors qu'on est un carrefour, on va dire, très passant. J'ai trouvé un local qui m'a plu et voilà, j'ai signé avec un local de la mairie de Paris. C'est pour ça aussi que
ouais,
je suis ici.
C'est relativement important de le dire. Donc le local, il fait 60 mètres carrés, c'est ça à peu près ?
Oui, c'est un local de 62 mètres carrés précisément,
ouais.
Qui a des briques. Alors les briques m'ont plu. j'ai flashé sur les briques. C'est une boutique d'angle et je suis au début de la rue. Donc l'emplacement avec les vitrines me semblait parfait et donc j'ai dû faire des travaux parce qu'avant c'était donc une chocolaterie
okay.
Confiserie et donc j'ai agrandi la boutique initiale en cassant une cloison pour faire un espace jeunesse, donc j'ai 62 mètres carrés avec une petite remise pas très grande, mais c'est pratique.
Qui a le mérite d'exister.
Exactement.
Et donc ce local, c'était disons même ce projet de librairie, il était proposé dans le cadre du programme, alors je ne sais absolument pas si on dit JE ou GIE tout simplement, Paris Commerce, c'est quoi ?
En fait, pour obtenir un local de la GIE Paris Commerce,
ouais.
Il faut candidater en fait.
Okay.
Y a quand même beaucoup de gens sont intéressés par ce type de local parce qu'il n'y a pas le droit de bail. C'est-à-dire qu'on ne paye pas le pas de porte, donc c'est une vraie économie quand on ouvre un commerce. Et donc, on fait un dossier parce que c'est sur dossier. Ils n'acceptent pas tout le monde. Par exemple, ils ne veulent pas de restaurant, ils ne veulent pas forcément de magasin de téléphonie, d'onglerie. Le but de la GIE, c'est de redynamiser des quartiers. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours un a priori favorable sur les librairies qui sont des lieux culturels, des lieux de vie.
De rencontres aussi, ouais.
Et donc voilà, j'ai proposé ça et ça a abouti.
Ok, et c'est le millième projet, je crois.
Exactement,
c'est le
millième commerce, symboliquement. Je me dis, ça va peut-être me porter chance. On verra, l'avenir nous le dira.
Ouais.
Mais je tiens à préciser que ce n'est pas un café-librairie, parce que les journalistes ont annoncé dans la presse que c'était le millième commerce, c'était un café-librairie.
Non. Oui, non, je bois un café, mais il vient de la remise, là. Il n'y a pas de café.
Et je suis nul en cuisine, je ne peux pas faire de tarte ou de quiche ou de cake. Non, ce n'est pas mon truc. Mais parfois, j'ai des clients qui me disent, mais vous ne faites pas aussi café ? Je dis, non, regardez autour de vous. Je n'ai pas la place, déjà.
Ouais.
Et pas les talents.
Alors, on est rue de l'Ouest. La librairie s'appelle à l'Ouest. Je fais rapidement
la corrélation entre les deux. Est-ce qu'il y avait déjà, est-ce que vous aviez un nom de rêve ou est-ce que celui-ci s'est imposé?
Alors, il y a plein de raisons pour ce nom. Alors oui, la rue, évidemment, ouais. ça paraît tomber sous le sens. Mais il y a aussi, j'aime l'expression être à l'ouest. Okay. J'aime ça. Je pense que les grands lecteurs sont souvent des gens à l'ouest, un peu dans les vapes, dans les nuages, un peu désaxés parfois par rapport à la vie de tous les jours. Ou... Voilà, donc déjà ça me plaît. Puis à l'origine, l'expression à l'ouest, c'était, j'ai vu ça sur internet, c'était les comédiens vivaient à l'ouest et puis travaillaient à l'est. Donc à force de faire des allers-retours entre les théâtres et leur maison, leur domicile, ils finissaient à l'ouest, quoi. Plus savoir vraiment où ils habitaient. Et donc que ça vienne des comédiens, ça me plaisait aussi parce que j'ai un rayon cinéma important, c'est une passion.
Vous avez été scénariste ou que vous êtes toujours scénariste?
J'ai été scénariste un petit peu. Ouais, je ne le suis plus. Là. Quand on est libraire, on n'a plus le temps de faire autre chose. Donc, mais ça reste une passion. D'ailleurs, j'ai fait un partenariat aussi avec le cinéma, l'entrepôt, on pourra en reparler, qui est à côté d'ici.
Allons-y. Qu'est-ce que c'est que ce...
Allons-y. C'est le cinéma est une passion et il se trouve que je suis à côté d'un cinéma indépendant de quartier, comme ma librairie est une librairie de quartier. Donc j'ai été les voir en leur proposant de faire une fois tous les deux mois un ciné-club.
Trop bien.
Voilà. Donc le principe, c'est simple, c'est un cinéaste publie un roman par exemple ou un beau livre lié au cinéma, on fait une projection d'un film choisi par l'auteur, et à la fin de la séance, on vend son livre. Voilà. Et la première séance aura lieu le vendredi 27 octobre pour un livre qui s'appelle Ozu, écrit par Pascal Alex Vincent, qui est documentariste, cinéaste et professeur de cinéma, spécialiste de cinéma japonais. Et donc il a écrit un livre sur Ozu aux éditions La Martinière, et il viendra nous présenter un classique d'Ozu, un film très rare. Donc je vous invite à venir.
Ouais, trop bien.
Et en décembre, ce sera un livre Jeanne par Jeanne Moreau aux éditions Gallimard. On fera une projection d'un film de Jeanne Moreau avec ou un film de Jeanne Moreau parce qu'elle a été aussi réalisatrice. On n'a pas encore décidé du film.
Okay.
Et ce sera début décembre la projection.
Ok, génial. Il y a le cinéma, vous avez aussi été prof de français. À quel moment l'idée d'ouvrir cette librairie, d'ouvrir votre librairie en l'occurrence, Elle est arrivée? Est-ce qu'il y a un moment de déclic, par exemple, ou absolument pas?
J'ai oublié de dire qu'à l'ouest aussi, c'était parce que j'étais breton d'origine.
Ouais, ça marche aussi, ouais.
Donc, ça marchait aussi pour plein de raisons, l'expression à l'ouest. Et puis, peut-être qu'en Bretagne, déjà, j'avais l'idée d'ouvrir un jour une librairie, parce que je me souviens qu'étudiant à Rennes, je passais mon temps dans les librairies, les petites librairies de quartier aussi. J'étais pas à la FNAC, il y en a une à Rennes, mais moi j'étais dans des lieux plus conviviaux, plus chaleureux, et je passais mon temps dans les rayons.
Ok, donc naturellement cette idée d'ouvrir votre librairie est arrivée.
Voilà, elle a germé, je pense, en Bretagne, et puis elle s'est concrétisée longtemps après, dans le 14e, pas loin de Montparnasse.
Ok. Est-ce que vous avez demandé d'autres conseils à des libraires? Je crois déjà que vous vous êtes formé dans un premier temps.
Oui, j'ai fait l'école de la librairie à Maison Alfort, 4 mois. Une formation théorique et pratique, parce qu'on a deux stages obligatoires d'un mois. Donc j'ai choisi deux librairies à Paris qui étaient dans la dimension que je désirais, voilà, vraiment des petites librairies de 50 à 60 mètres carrés. Voilà, pour un peu voir tous les postes, toutes les tâches du métier de libraire.
Et justement, qu'est-ce que vous avez vu entre vos attentes, vos aspirations, vos rêves peut-être, et puis la réalité?
Ah oui, alors c'est vrai que c'est un métier qui suscite beaucoup de fantasmes. Et j'en avais, comme tout le monde, un fantasme un peu romantique. Ouais. Libraire, on passe son temps à lire, et à conseiller.
Par exemple.
Ça, c'est pas la réalité. Ouais. On a moins le temps de lire, presque. Hélas, non, mais si, on a le temps de lire quand même, évidemment, mais on est... La réalité est quand même peut-être moins romantique, elle est très concrète. C'est un métier de manutention aussi. On a des cartons, vous en voyez autour. Là, d'ailleurs, je n'ai pas terminé de les faire ce matin. Il faut y aller. C'est le corps qui s'exprime aussi. Il n'y a pas que la tête.
C'est un travail peut-être plus physique que ce que vous aviez imaginé.
Peut-être, oui. Peut-être plus physique. Et surtout, il faut avoir plusieurs cases dans le cerveau parce qu'il faut penser à plein de choses. Donc voilà, je n'avais pas mesuré à quel point la communication, la gestion, la manutention, les commandes, gérer les clients, l'accueil, enfin tout ça, c'est plein de choses et mis bout à bout, ben, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Il y a combien de références ici ? C'est une librairie généraliste, hein, je précise.
Oui, généraliste, on a un peu plus de 6200 références.
Et c'est une librairie indépendante. Oui. Qu'est-ce que c'est une librairie indépendante ?
Bah, librairie indépendante, c'est une librairie qui assume des choix.
Voilà. Qui assume des choix, ok. C'est une bonne définition, ouais.
On est, alors, je veux être une librairie ouverte, je ne veux pas faire de censure. On essaye de prendre tout, mais la production éditoriale est tellement pléthorique qu'on est obligé de sacrifier des choses. Et moi, je tiens à ce que chaque livre présent dans la librairie, il est choisi. Donc, on fonctionne selon nos goûts. C'est plutôt une librairie généraliste, mais avec une spécialité plutôt littéraire quand même. Donc, c'est le principal rayon, c'est la littérature française, ouais, et la littérature traduite et la littérature jeunesse. Mais je tiens à quand même à être donc un vrai généraliste. Donc, j'ai du polar, évidemment. J'ai des sciences humaines.
Il y a des beaux livres.
Il y a des beaux livres. Il y a de la cuisine. Voilà, je trouve que les livres de cuisine sont aujourd'hui des beaux livres. Le travail éditorial est très soigné. Et puis j'ai des BD aussi, évidemment, et des mangas. Donc j'ai vraiment de tout, mais je n'ai pas tout.
Oui, ça, sinon les murs seraient déjà poussés depuis longtemps.
Oui, ou j'aurais même pu mettre des étagères jusqu'au plafond, mais je ne voulais pas qu'il y ait un effet trop plein. J'aime bien aussi les lieux parfois un peu épurés, ou en tout cas bien rangés.
Oui, là, on n'étouffe pas du tout et on se sent relativement bien, quoi.
S'aéré,
ouais, exactement.
Ça, c'est bien.
Combien de livres vous lisez par semaine ? En moyenne, évidemment.
J'ai changé de rythme de lecture.
Bah oui, puisque vous parliez
avant. Mais j'ai changé aussi de la façon de lire parce qu'on ne peut pas. Y a énormément donc, de livres. Il y a 456, je crois, plus de 450 livres à la rentrée, cette rentrée. Donc j'ai énormément lu pendant les vacances. Mais contrairement à avant, j'arrête un livre très vite quand je sens que voilà, c'est
que ça pas
pour
pas.
Moi ou que j'ai compris voilà, ce qu'était le livre. Je l'arrête tout de suite pour passer à un autre. Donc on a moins la lecture plaisir, on prend son temps. Là, on est obligé de les enchaîner, quoi.
Alors une librairie, ça se pense. Comment est-ce que vous l'avez pensé ? Est-ce que vous aviez envie, je sais pas, de faire plus de place aux rencontres, aux animations ? On en a un petit peu parlé avec le cinéma, par exemple. Comment est-ce que vous avez pensé la vie de cette librairie, tout simplement ?
Bah, une librairie, c'est un peu un phare dans un quartier quand même, donc il y a un côté apporter les lumières de l'esprit, c'est un peu pompeux quand même, mais bon...
On comprend l'idée, ouais.
On comprenait l'idée. Donc oui, faire des rencontres, c'est important. Après, c'est difficile de faire bouger les gens aussi. Ils ont envie de rencontres, ils nous le disent souvent. Et puis quand on en fait, ils ne sont pas toujours présents.
Les gens, les clients, ouais.
Les clients, ouais. Parce qu'à Paris, ils sont accaparés par plein de sollicitations. Mmh. Le cinéma, le théâtre, la vie, voilà, c'est speed. Donc c'est compliqué de les faire venir. Mais bon là, c'est le début. Donc il faut aussi qu'on crée un noyau. Hein, et ce n'est pas encore le cas,
mais
ça va sans doute venir. Donc on en fait. Moi, je trouve que c'est important d'en faire. On va en faire au cinéma, mais d'en faire aussi à l'intérieur de la librairie. Là, on en a fait deux récemment, dont la dernière avec Dominique Barberis.
Ah bah, qui sera invité à ce micro dans 2-3 semaines, je ne sais plus.
Ah bah, vous l'embrasserez de ma part.
Je l'embrasserai.
J'aime beaucoup son livre Une façon d'aimer et je lui souhaite bonne chance pour son prix Goncourt, puisqu'elle est dans les 7 derniers romans sélectionnés.
Ouais.
Donc ça s'est très bien passé. Et je trouve ça important de discuter comme ça. Avec un public et de présenter un livre qu'on a aimé. Oui, c'est le cœur du métier aussi. Voilà, même si c'est pas forcément, on cherche pas la rentabilité pour vendre plein de livres, c'est pas ça, c'est vraiment des moments d'échange, quoi.
Est-ce que vous organisez des rencontres, en tout cas peut-être pas les organiser, mais est-ce que vous lisez par la force des choses des livres que vous n'auriez pas lus, que vous n'aimez pas potentiellement ?
En tout cas, si j'aime pas un livre, je vais pas inviter l'auteur pour en parler. Ça, c'est sûr, c'est un principe de base.
Ouais.
Par exemple, la prochaine rencontre, c'est avec Mark Green.
Que je déteste.
Non, que j'adore, justement. Bah oui. C'est moi qui l'ai proposé pour son livre Real Madrid, paru aux éditions Plein Jour. Non, à chaque fois que je fais une rencontre, c'est vraiment des auteurs que j'ai envie de défendre, qui sont parfois plus confidentiel, je ne vais pas inviter des auteurs trop connus. Amélie Nothomb, ça n'aurait pas de sens. Voilà,
Ça pourrait avoir un sens au début, surtout.
Non, parce que déjà, on n'a pas le temps de faire des rencontres, parce qu'il y a tellement de gens qu'ils sont là pour signer, en fait. Donc, elle parle avec les clients, mais pas le temps vraiment d'échanger. Mais non, moi, je préfère faire venir des auteurs un peu plus... moins dans le gros circuit, quoi, commercial.
Ouais. Est-ce que, est-ce que vous avez dû, je ne sais pas, adapter un petit peu vos goûts à, au goût de votre clientèle?
Oui, bah, ça c'est l'éternel... la librairie elle est ouverte depuis 4 mois, donc c'est encore compliqué d'avoir une idée précise de la clientèle.
Okay.
Voilà, on observe, pour l'instant on est en phase d'observation, mais c'est l'éternel conflit quand on ouvre une librairie entre son identité, ce qu'on a envie, quelle tonalité on a envie de donner, quelle identité, et les goûts des clients. Donc on navigue un peu entre les deux, où on ne veut pas se trahir non plus et faire que pour les plaisirs aux autres. On a envie aussi de parler de soi quand même, quand on ouvre un lieu,
ouais,
un lieu
après,
à soi.
C'est son
quoi.
Bébé aussi, comme on dit.
Voilà,
quoi.
Donc voilà, on est un peu entre les deux et on ajuste. Mais bien sûr qu'on ne peut pas faire sans les meilleures ventes, c'est aussi un commerce.
Et puis qui ne sont pas forcément synonymes de médiocrité par ailleurs.
Exactement. Exactement. Donc on trouve sur les tables les meilleures ventes, voilà. Mmh. Mais que je peux aimer. Par exemple, je pense à un livre, Panayotis Pasco, là, son dernier livre qui est paru chez Stock, La prochaine fois que tu m'enverras la poussière. C'est un livre, je l'ai reçu en un exemplaire, je l'avais commandé, parce qu'on commande les livres 2 mois à l'avance. On les choisit sur catalogue, hein, avec un représentant.
Ouais.
Je l'avais choisi en un seul exemplaire. J'ai constaté l'engouement pour le livre et évidemment j'en ai recommandé et puis je l'ai lu et je me suis trompé, vraiment clairement trompé. Donc les libraires ont aussi des préjugés, c'est un très bon livre, un livre très personnel où il dit sa vérité, où il parle de sa difficulté à être lui-même, en fait à s'assumer en tant qu'homosexuel. Il parle aussi de la relation amour-haine avec son père, c'est très touchant. Et voilà, donc le livre m'a vraiment emballé. Et je le reçois d'ailleurs, Panayotis Pasco,
trop
à la librairie.
Comme quoi.
Ouais, comme quoi. Il vient gentiment le 15 novembre. Donc, et puis il a un autre mérite, ce livre, c'est de faire rentrer les jeunes en librairie. Je trouve qu'il y a beaucoup...
Oui. Le public est, j'ai l'impression, assez jeune, précisément.
Oui, ouais, vraiment. C'est des jeunes entre 20 et 30 ans qui sont peut-être pas les plus gros lecteurs, on va dire. Ils ont poussé là à la porte de la librairie et ils lisent le livre et ils l'aiment, ils ont envie d'en parler. Et puis ils ont le passe culture parfois, les lycéens, donc ça aussi, ça fait venir les jeunes en librairie, ça c'est bien aussi.
Ah bah oui, d'ailleurs le passe culture, qu'est-ce que vous avez noté au bout de 4 mois ?
Eh ben, je trouve que c'est une très bonne initiative parce que moi j'étais professeur dans un lycée professionnel où j'avais des élèves donc, qui étudiaient la cuisine, le service en salle.
Ouais.
Et j'aimais bien le contact avec ces jeunes, ils avaient entre 16 et 18 ans. Et ben ça me manquait un peu. Je me disais en librairie, je vais peut-être pas les revoir. Ben grâce au Pass Culture, je peux les voir, échanger un peu avec eux, avoir un autre rapport que le prof-élève, et c'est bien.
Et ici, il y a beaucoup de mangas, comme on le dit beaucoup.
Alors, oui,
dans les médias.
Mais ça aussi, c'est des préjugés. Les jeunes n'achètent pas de mangas. En tout cas, ceux qui viennent ici pour être en Pass Culture, c'est pour le Panayotis, par exemple, Pasco, pour acheter aussi des sciences humaines, des ouvrages féministes. Parce qu'évidemment, la question féministe, aujourd'hui, ça irrigue...
Oui, le rayon, il est bien, j'ai regardé en plus.
Oui, bah, il est assez fourni.
Ouais.
Et donc, c'est des questions qui préoccupent les jeunes. Et l'environnement aussi, j'ai un rayon environnement.
Okay.
Et ils achètent beaucoup de sciences humaines. Et sinon, des livres de fond. L'autre fois, j'ai un jeune avec son passe culture, il a acheté pour presque 100 € de folio sur Zola. Voilà, les œuvres de Zola.
Est-ce que c'est si difficile qu'on le dit économiquement de tenir une librairie ?
Je pense que c'est un commerce fragile parce que les marges sont faibles, mais c'est encore trop tôt là pour moi de dire si
quelque chose
voilà, si c'est compliqué ou pas. Je sais, je pressens qu'il faut faire attention, bien acheter, pas trop flamber, mais c'est encore trop tôt là pour dire.
Si on est là aujourd'hui, c'est que vous y croyez plus que jamais, mais comment est-ce que vous voyez ce métier évoluer ?
Comment je le vois à l'avenir ?
Ouais, peut-être pour vous, parce que j'imagine que vous ne pouvez pas parler pour tout le monde.
Vous avez peut-être... Bon, déjà en règle générale, bon là je ne réponds pas forcément à votre question,
c'est
mais...
C'est pas grave, on est là pour ça.
En règle générale, là il y a une bonne nouvelle, parce qu'on a toujours annoncé la mort des librairies, on a dit ça à l'ouverture des grands centres culturels comme la FNAC, les librairies ont survécu, après on l'a dit pour Internet. Amazon, les librairies ont survécu. Donc elles sont là, c'est des lieux quand même résistants, résilients. Moi, je me fais pas trop de soucis. En plus, là, il y a une bonne nouvelle pour les frais de port pour Amazon. Là,
oui, c'est à 3 euros désormais, je crois.
3 euros. Donc, c'est un signe favorable pour les librairies indépendantes. Donc, on va essayer d'être optimiste, voir le verre à moitié plein. On est en France, les gens aiment lire, la culture, voilà, ils la préservent, ils la chérissent. Et puis à Paris, une ville où une densité de cinéma, de librairies indépendantes qui est encore très forte, et je pense que ça durera. Et pour moi, bah, je ne sais pas, peut-être qu'un jour j'aurai envie d'ouvrir une succursale, une petite librairie à l'est par exemple, ou au sud, je n'en sais rien.
Pourquoi pas. Alors, c'est votre première rentrée littéraire. Comment se passe un petit peu cette période, disons, chargée ?
Oui, alors c'est excitant une rentrée littéraire parce que on a beaucoup lu avant, les mois d'été. Et puis après, les livres sont sur table, on les met et on a un petit pincement comme ça, un petit papillon parce qu'on a nos coups de cœur et on les défend. On a envie que les lecteurs s'emparent de nos coups de cœur. Donc c'est super, c'est une période très, très intéressante. Je trouve que la petite déception, c'est que je trouve que la littérature étrangère, c'est timide. Voilà, ça, je trouve que
c'est timide,
les
c'est
gens
quoi,
sont
c'est
moins
mauvais
curieux. Ah. Oui, ça tourne pas assez à mon goût. Mais pour la littérature française, non, c'est bien.
Je vais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ?
Un coup de cœur, j'ai été voir récemment l'expo au musée d'Orsay Van Gogh, et je trouve que c'est une expo magnifique où sont réunies les dernières toiles de Van Gogh, sa période à Auvers-sur-Oise. Ils ont réuni 54 toiles sur 70 tableaux qu'il a peint en 2 mois, donc c'est énorme.
Félicitations à lui.
C'est très beau. L'expo est très belle parce que on voit des paysages, des natures mortes, des portraits, la palette explosive des couleurs de Van Gogh. La dernière salle, c'est des formats double carré qui sont réunis, on dirait comme une grande frise. C'est très beau. Donc ça, c'est un coup de cœur. Et je me dis peut-être pour en complément d'exposition de tableaux, vu qu'on est dans une librairie, on va parler de livres, Lettre à son frère Théo de Van Gogh.
Okay.
Toutes ces lettres qu'il a, sa correspondance, les lettres qu'il a écrites à son frère, où on découvre un Van Gogh. On dit qu'il était fou, mais en fait c'est un cliché. Il n'était pas fou. C'était quelqu'un de très cultivé. Et ces lettres sont assez déchirantes parce qu'il fait part de ses difficultés matérielles. Et c'est très beau. Je pense qu'on peut lire ça avant ou après l'exposition. On découvre que pour les passionnés de peinture et de littérature, c'est,
okay,
c'est
génial.
Parfait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et bien voilà, La Quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de La Quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.